Bonsoir à toutes et à tous pour une nouvelle émission de Quartier Populaire. Ce soir, donc en direct, je rappelle que vous pouvez poser vos questions à notre invité du soir, Francis Dupuis-Déry. Bonsoir, Francis.
Bonsoir, merci de me recevoir.
C'est tout le plaisir est pour nous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et je pense que nos auditeurs sont très contents de pouvoir évidemment vous écouter ce soir. Je rappelle, vous pouvez poser des questions à Francis Dupuis-Déry. Alors, je vais le présenter rapidement. Je vais présenter rapidement Francis. On ne va pas s'attarder sur des grandes présentations. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, Francis est professeur de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal. Il est auteur de plusieurs livres. Ceux qui nous suivent ont peut-être fréquenté ou lu ses livres. Alors, je ne vais pas tous les citer. La première fois que j'ai rencontré Francis en tant que lecteur, c'est La peur du peuple, en Agoraphilie, Agoraphobie, qui est un texte assez dense, hein, un travail de fond, un travail de recherche. On aura peut-être l'occasion de revenir sur ces thèmes-là au fil de la discussion. Nous n'irons plus aux urnes. Ça, peut-être que ça fera réagir certains. Hein, donc, avec un passage d'ailleurs, on verra, assez drôle sur l'abstentionnisme et la critique de l'abstentionnisme. Voilà. Et surtout, et c'est le titre de l'émission, L'art de la guerre culturelle. Donc, je ferai présentation du livre à la fin de l'émission. C'est un livre qui est donc publié en 2026 aux éditions Textuelles. C'est un livre qui est très intéressant à lire, un peu perturbant. On va en parler parce que il s'étale sur une trentaine d'années. Hein, donc, ce sont des articles qui ont été repris, revisités. Parfois, il y a même des petites introductions sur les articles. Et donc, 30 ans. Et c'est impressionnant parce que on en parlera, Francis. Moi, j'ai observé en fait des déplacements et à la fois une forme de constance. En fait, hein, il y a une ligne, une tendance lourde que je vais résumer rapidement et qui présente, à mon avis, évidemment, votre pensée. Donc, c'est une chronique qui s'étale sur 30 ans. Alors, on y voit pêle-mêle des paniques morales, hein, des paniques morales que vous décrivez avec brio, alors avec un sens à la fois, comment dire, une sorte d'exposition, sans trop de jugement parfois, avec beaucoup d'ironie, j'ai trouvé, de subtilité. Donc, des paniques morales, un oubli de la réalité, ça c'est sûr, un déni de réalité. Surtout quelque chose qui m'a véritablement intéressé et qu'on a souvent analysé sur QG, c'est un peu la question qui parle, d'où tu parles et de quel pouvoir tu parles. On a un renversement, on va analyser ça. Des puissants expliquent qu'ils sont opprimés par des minorités quasiment invisibles. Ce qui est quand même un renversement étonnant. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui ressort très très bien du livre. On le voit dans différentes rubriques. Des camps qui s'opposent, mais de façon complètement asymétrique. Hein. Là, on est sur un média indépendant qui... Bon, mais il y a une sorte de lutte complètement asymétrique avec des médias mainstream qui ont en quelque sorte le monopole d'une parole légitime, en tout cas qui se prétend telle. La logique du bouc émissaire. On va y revenir, ça aussi c'est quelque chose de très important. Avec derrière, c'est pour ça qu'en présentant sur X, je vous ai présenté comme ça une lecture anarchiste que je trouve évidemment très très intéressante, qui fera réagir. Une lecture critique aussi et une invitation au combat, c'est-à-dire à ne pas baisser la garde et à ferrailler contre un petit peu toute cette sphère-là. Alors ma première question, Francis. L'art de la guerre culturelle. Alors c'est vrai que nous, on a titré Peut-on gagner la guerre culturelle? Le titre est un peu plus pessimiste, je l'avoue, on en a un peu discuté. D'abord, pourquoi cette idée? Pour expliquer aux gens, guerre culturelle, qu'est-ce que on a aujourd'hui des conflits et des guerres terribles, évidemment, dans le monde. Et est-ce qu'on peut utiliser ce terme de guerre et pourquoi? Vous avez utilisé ce terme de guerre que vous associez à guerre culturelle. Qu'est-ce que c'est que cet objet?
Oui, ben merci pour l'introduction et la présentation et cette première question. Alors oui, effectivement, je suis tout à fait conscient qu'il y a des vraies guerres avec des morts par milliers. D'ailleurs, il y a une section dans mon livre qui sont des interventions sur la manipulation des esprits par rapport à des guerres, Afghanistan, Irak, Syrie,
On y
Libye,
reviendra, oui.
entre autres. Donc, je suis tout à fait conscient qu'il y a des guerres réelles, des génocides. Mais cette expression-là de guerre culturelle, en fait, elle circule, en tout cas de notre côté de l'Atlantique. Elle a été proposée par James Hunter et des universitaires américains, donc aux États-Unis, pour expliquer un peu l'histoire des idées et des valeurs dans leur propre pays. Et donc, c'est cette idée que aux États-Unis, mais je pense que ça s'applique très, très bien en France, au Québec et dans d'autres contextes que je connais moins bien, mais en tout cas, je connais bien le contexte français, les États-Unis et le Canada, c'est mes deux pôles, mes trois pôles, disons, que je connais le mieux. Où en fait, il y a comment on définit ces guerres culturelles? C'est des combats d'idées, hein, des combats d'idées, des combats de valeurs au sujet de la définition de qu'est-ce qu'être américain ou qu'est-ce qu'être français ou qu'est-ce qu'être québécois ou canadien et quelles sont les valeurs américaines ou les valeurs québécoises ou les valeurs françaises. Alors, c'est des enjeux de lutte, hein, c'est jamais arrêté dans le temps, c'est ces grandes questions. Dans le livre éponyme, donc Culture War, qui a un peu lancé cette idée dans les années 90, c'est que pour les États-Unis, mais comme je dis, ça se reproduit ailleurs, l'auteur constatait qu'il y avait en fait, grosso modo, deux grands camps, appelons-les les conservateurs réactionnaires et disons les progressistes avec peut-être quelques révolutionnaires comme ça, qui sont aux États-Unis, en plus, représentés ou incarnés dans le quotidien par les deux grands partis, hein, bon, le parti démocrate qui est pas ré révolutionnaire, là, mais qui incarne la posture, disons, plus progressiste sur ces questions-là, et le parti républicain. Et donc, ils s'affrontent souvent à travers les médias. Ils s'affrontent souvent à travers les médias sur des polémiques qui sont très répétitives, finalement, et qui touchent toujours un peu les mêmes zones de la vie sociale. Donc, la famille, l'école, parce que ce qui est en jeu, c'est les enfants. On veut en fait s'assurer que les enfants soient élevés justement selon les valeurs de notre camp, puisque les enfants, ce sont ceux qui forment la nation de demain. Question de sexualité, art et culture, et évidemment, la question des lois. Donc, disons, famille, éducation, culture, culture au sens large. Et donc là, vous avez donc ça, c'est la guerre culturelle en général, mais il y a des batailles. On pourrait dire qu'il y a des batailles culturelles qui reviennent de manière récurrente. Ça vous parlera peut-être moins en France, quoique vous avez peut-être vu passer la bataille au sujet de la polémique au sujet de la crèche à Bruxelles en décembre, là. Mais régulièrement, depuis une quinzaine d'années, au Québec et aux États-Unis, il y a des polémiques absolument ridicules sur le fait que, apparemment, selon les conservateurs et les réactionnaires, on ne pourrait plus célébrer Noël. On ne pourrait plus installer des arbres de Noël, donc des sapins de Noël. On pourrait plus dire joyeux Noël. Ils reviennent avec ça à chaque année pour montrer évidemment que la nation est en train d'être vidée de ses traditions, de ses coutumes qui la cimentent et qui la fondent. Et évidemment, l'ennemi, c'est le problème dans ce cas-là. Dans ce cas spécifique-là, évidemment, c'est l'immigration musulmane. Mais évidemment, dans les guerres culturelles, c'est pas toujours l'islam qui est présenté comme l'ennemi. Ça peut être d'ailleurs. L'adversaire lui-même peut être. Aux États-Unis, il y a un terme très fort. Je sais qu'en France, il y a l'expression anti-France, mais qui est dans une autre tradition. Mais aux États-Unis, il y a une expression qui est un peu difficile à traduire, qui est vous êtes un-American ou des un-American acts, c'est-à-dire vous vous comportez comme un non-Américain, même si vous êtes John Smith ou Michael Stewart ou un type tout à fait américain. On va dire ça, c'est non-Américain. Donc c'est cette idée en fait que vous vous situez de par votre comportement à l'extérieur même. Du cadre culturel, du cadre des valeurs nationales. Ça a été beaucoup utilisé pour discréditer, par exemple, tout ce qui était le militantisme communiste aux États-Unis.
Alors, c'est un point, hein, partant de là, puisque votre premier chapitre, c'est sur le politiquement correct, en fait. Moi, ce qui m'a troublé, c'est de lire des textes que vous avez écrits en fin des années 90, en fait. Et cette référence à George Bush, mais une référence à George Bush, des années 90-91,
Le
hein.
père, c'était George Bush
Le
père, en
père,
plus, oui.
exactement, le père Bush qui nous parle de ça. Hein. Je le cite, ce qui a débuté comme une lutte pour la civilité s'est transformé en censure. Et en fait, c'est ce renversement-là qui est assez fascinant. Alors, on l'a vu en France, hein. On l'a vu avec la pensée, en particulier, toute cette pensée, des années 80 contre mai 68, contre la pensée critique. On a eu Renault, Ferry, on a eu toute cette
Tout à
grande
fait.
mouvance dans les années 80 qui a porté un discours des valeurs. Hein, on était vraiment là-dedans, et avec cette idée d'une espèce de délitement, de déconstruction, enfin de généralisée. Et dans les critiques d'ailleurs de cette critique de la pensée 68, enfin, c'est très homogène d'ailleurs, parce que la pensée 68, ça ne veut pas dire grand-chose, et cette idée d'une hyper-généralisation, c'est-à-dire qu'on prend un texte de Foucault et on en fait une vérité sociale globale. Alors ça, c'est un deuxième point que j'aimerais vous interroger là-dessus. C'est qu'au fond, ce qui ressort du livre, moi, ça m'a troublé, ça m'a même un peu presque sauté aux yeux d'une certaine façon, c'est de voir, parce que vous en parlez souvent, de façon un peu ironique d'ailleurs, et ça renforce le fait de montrer la chose, un petit élément devient un élément énorme. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un problème d'université dans tel état, ou etc. Sur des milliers, voire des dizaines de milliers de cours, et ça devient une affaire nationale et une menace pour la civilisation et un problème d'effondrement généralisé. Comment est-ce que ce tour de passe-passe, en fait, est possible, en fait? Enfin, comment ça marche, en fait?
Exact. Alors, il y a différentes clés d'explication, mais c'est vrai qu'il faut vraiment souligner cette tendance à l'hyperbole et à l'exagération. Là, je vais nommer des acteurs précis dans ces guerres culturelles, en parlant de la France. Des auteurs comme Pascal Bruckner, disons une génération plutôt de boomers. Mais aussi un plus jeune qu'on se partage, hein, on vous le partage, Mathieu Bock-Côté, ou évidemment Éric Zemmour, qui est là, un pied dans la politique, un pied dans la polémique. Ils se saisissent effectivement de vraiment des anecdotes. Il s'est passé quelque chose sur un campus, et souvent ces anecdotes sont plutôt vraies, c'est-à-dire que des fois, ils tournent un peu les coins ronds pour nous rapporter l'affaire, pour résumer l'affaire, ils donnent pas tous les détails, mais oui, il y a peut-être des étudiants et étudiantes qui ont manifesté, chahuté un enseignant, un professeur dans une conférence sur un campus, où il s'est passé, il y a eu un graffiti, où il y a eu bon. Et donc, mais là, à partir de ce fait-là, qui est réel, mais qui est en réalité non seulement anecdotique, mais pour revenir au chahut à l'université, le mot chahut en français, il désigne spécifiquement des élèves qui chahutent un enseignant, c'est-à-dire que c'est lié à l'expérience de l'école, de l'université. Cette histoire du chahut, ça existe depuis des siècles. Et l'université, elle tient bon, hein, ça fait 800 ans qu'elle existe. L'université, elle en a connu des chahuts de l'extrême droite, de l'extrême gauche, de catholiques, d'athées, de bon, bref, selon les situations. Donc, bref, ils prennent une anecdote. Et donc, il y a deux choses qui font que leur manipulation des esprits fonctionne. Premièrement, ils jouent vraiment à l'hyperbole. Et ils sont très bons au niveau de la rhétorique à monter cette anecdote comme un phénomène global avec des termes, quand on y pense sérieusement, qui sont absolument ridicules, mais qui prennent dans la tête des gens. Donc, Mathieu Bock-Côté va parler de totalitarisme. Bon, il ajoute sans goulag, mais il revient sur cette idée. Et Pascal Bruckner aussi, il dit c'est l'extermination de l'homme blanc qui est prévue, c'est le totalitarisme. Il donne souvent l'exemple du néo-maoïsme. Donc, la révolution culturelle, donc ça fait référence à la Chine populaire de Mao, à des phénomènes là où il y a eu des millions de morts en réalité. Là, on parle de millions de morts. La terreur, ils reviennent avec cette idée de la terreur. On est dans une logique des Khmers rouges. Les Khmers rouges, ils ont tué des millions de personnes là. C'est à ça qu'ils font référence, ces personnalités publiques, ces polémistes qui pourtant se targuent d'avoir une grande culture historique, d'être très cultivés. Alors qu'ils font des comparaisons absolument absurdes avec l'histoire, avec les moments les plus dramatiques et les plus terribles de notre histoire. Donc ça, c'est la première clé de leur succès, je pense, c'est cette sorte de rhétorique absolument excessive. Et par ailleurs, ben en fait, vous y avez fait écho tout à l'heure au tout début. Ben en fait, ils sont invités, ils se font offrir des tribunes, des emplois. En fait, ils se font offrir des tribunes par ce qu'on appelle les magnats de la presse, donc en fait des multimilliardaires maintenant qui possèdent des médias et qui leur donnent quantité de tribunes avec lesquelles ils rejoignent une grande partie, beaucoup 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 de gens. Ils s'imposent dans le débat public comme ça. Et puis après ça, il y a des relais avec des livres. Donc à chaque année ou à chaque 2 ans, ils publient un livre qui est toujours un peu le même livre d'ailleurs. Toujours le Pascal Bruckner écrit tout le temps le même livre depuis des années. Mathieu Bock-Côté, il écrit tout le temps le même livre à tous les 2 ans. Mais ça leur donne une carte de visite pour refaire un tour de piste dans les médias en ayant publié ce livre-là. Et comme ça, ils avancent, ils s'invitent les uns les autres. Tout ça, c'est légal, hein. Il n'y a pas de. Ça fait très très longtemps que les magnats de la presse privée, pas tous, mais la plupart défendent plutôt des projets conservateurs, plutôt capitalistes, plutôt individualistes, font la chasse aux communistes. Aux États-Unis, il y a toute une tradition de magnats de la presse là. Anticommunistes, c'est tout à fait légal d'être propriétaire de médias. Mais comme je dis souvent à mes amis anticapitalistes, un des problèmes avec les anticapitalistes, c'est qu'ils sont pauvres. Et les anticapitalistes, ils s'achètent pas de médias de masse. Ils n'ont pas des milliards de dollars à investir dans des chaînes de télévision, des chaînes de radio. Et donc, en fait, le combat est de toute évidence asymétrique. Il est de toute évidence très déséquilibré.
Oui, ça
Et
c'est.
il y a des effets d'illusion. Parce que quand on regarde un kiosque à journaux, par exemple, on dit, bah, y a les différentes tendances qui sont représentées. Il y a Libération, mais il y a Figaro, donc ça va. Ou quand on regarde aux États-Unis, on dit, ah, il y a Fox News et CNN, il y a un peu la voix des démocrates, la voix des républicains. Mais quand on regarde les chiffres d'audience ou les chiffres de vente, les médias de droite sont généralement beaucoup plus efficaces. Fox News est beaucoup plus puissant que CNN, donc il n'y a pas de symétrie. Et le Figaro est beaucoup plus puissant que Libération, par exemple.
Ce qui est important, justement, en lisant ce travail et au fond cette idée de guerre culturelle, c'est qu'il faut que les gens comprennent en fait que ça a une incidence. Lorsque, par exemple, vous parlez du goulag, etc., on a entendu Jordan Bardella dire « Si Mélenchon arrive au pouvoir, je finirai dans un goulag ». Alors évidemment, c'est à pouffer de rire. Enfin, c'est une farce absurde. Mais pourtant, il le dit. Donc, ça veut dire qu'il y a un fonctionnement et que ça a un effet, quoi. C'est ça qui est, et en fait, il peut le dire parce qu'il y a tout ce contexte autour, tous ces discours, toutes ces narrations qui sont constantes. Il faut voir qu'il y a une récurrence, hein, ce que vous décrivez, mais ce qu'on observe aussi, nous, dans les médias, tout le temps, en fait. Tout le temps, on revient sur les mêmes affaires et qu'on va donc polariser énormément. Ça, vous en parlez aussi beaucoup, de cette polarisation. Hein, on ne peut pas finalement tomber dans une nuance. Hein, c'est tout de suite extrême. Je prends juste un exemple. Le film L'Abandon, hein, qui est sorti récemment au cinéma sur l'atroce assassinat de notre collègue Samuel Paty. Ben, en fait, très vite, on s'est aperçu d'une chose, c'est qu'il ne fallait pas simplement voir L'Abandon, il fallait l'imposer à toutes les classes. Il faut qu'on regarde ça le matin, le midi et le soir. Et si on n'est pas, on a une réticence pédagogique ou une liberté pédagogique, alors là, on est suspect. C'est-à-dire que même si on a pu trouver que le film, il y avait évidemment des qualités et que c'est un sujet très, très dur et terrible, mais tout de suite, on se dit, ah, il crée, voilà, il faut polariser et donc trouver quelque chose. Et donc le quelque chose, le point dur, ça va être, ben, il faut absolument imposer à tous les lycéens, ce qui est délirant, hein. Les mêmes qui nous disent qu'on est dans une sorte de, comment dire, de menace stalinienne. C'est un peu effrayant, quoi. C'est un peu effrayant. Je voulais savoir, avant qu'on prenne les questions, n'hésitez pas à poser des questions, hein, sur le chat, qu'on puisse relayer. Je voulais savoir un peu plus précisément, au fond, qu'est-ce que vous entendez par réactionnaire, en fait. C'est quoi, au fond, un penseur vraiment réactionnaire? Moi, j'ai eu une question il y a des années par rapport à ça, parce que j'avais fait un petit essai, justement. Bon, le titre, c'était Vieux Réac. Et le problème, c'est qu'on nous renvoyait, quand on critiquait la modernité, ou quand on critiquait, je dirais, l'adaptation à toutes les. Je dirais, des choses, par exemple, informatiques, ou on nous traitait de réactionnaires. Et moi, j'étais un peu perdu. Aujourd'hui, je le suis beaucoup moins. J'ai bien compris que c'était une catégorie politique très déterminée. Mais j'aimerais savoir un petit peu, voilà, comment vous voyez, au fond, cette pensée réactionnaire. Quelles sont ces coordonnées, en fait?
Mais en fait, ceux que je qualifie de réactionnaires, à mes yeux, ils le sont parce que c'est dans leur propos même qu'ils disent que c'était mieux avant, que nos sociétés se sont délitées sous les charges et les attaques et le travail de mine conjugué des progressistes. Donc là-dedans, ils mettent les féministes, ils mettent les antiracistes, ils peuvent mettre les écologistes. Ils peuvent mettre les antifascistes, qui est l'espèce une sorte d'épouvantail ces temps-ci. Ils peuvent mettre les syndicats selon les moments, selon le. Ils peuvent mettre, dans le cas de la France, ils vont mettre la France insoumise. Donc ça, c'est les forces progressistes qui détruisent la France, qui détruisent ses institutions. Ça commence dans les facs progressistes, les féministes et les antiracistes détruisent la fac. Après ça, ils sortent de la fac, ils descendent dans la rue, ils détruisent la France. Et si une fois que la France est détruite, ben, c'est la civilisation qui est détruite. Et voilà. Donc, ils sont réactionnaires dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire que les gens dont je parle, ils regardent en arrière en disant qu'il faut reculer, il faut revenir dans un temps mythifié où la France était vraiment la France, pour le dire comme ça, où on savait c'était quoi la France, les valeurs de la France, où on ne se faisait pas censurer. Et puis évidemment, il y a dans le cas dont on parle, cette attaque qui mène la France, est évidemment conjuguée avec, il y a cette idée que les progressistes sont alliés, vous avez un terme extraordinaire en France pour dire ça, c'est l'islamo-gauchisme, sont alliés en fait des forces migratoires qui sont dangereuses, et là on nomme l'islam. Et donc, c'est toute la théorie de l'islamisation de certains secteurs de la France. Et donc, ces deux forces en convergence, progressistes et immigration musulmane, c'est ce que les réactionnaires, ce que j'appelle les réactionnaires, voient comme les forces destructrices. Et donc, ils regardent en arrière pour trouver, en fait, le modèle auquel il faudrait revenir. À l'époque où apparemment il n'y avait pas d'immigration, ce qui est évidemment faux, mais c'est pas grave. À l'époque où apparemment il n'y avait pas d'immigration, et à l'époque où les féministes étaient raisonnables et où l'antiracisme était calme et paisible, mais celui d'aujourd'hui est apparemment complètement hors contrôle. Et dans le cas de la France, je le dis spécifiquement dans le cas de la France, ça peut aussi, de manière un peu paradoxale, s'imbriquer ou s'arrimer dans leur esprit avec une sorte d'anti-américanisme, mais qui est paradoxal parce qu'en fait, en même temps, ils importent beaucoup d'idées réactionnaires des États-Unis. Ils s'inspirent beaucoup des États-Unis. Le mot woke, par exemple, ils l'ont repris ils parlent anglais d'ailleurs quand ils disent ça. Et vous avez remarqué
Qui a surgi vraiment une espèce
de
d'impact comme
ces.
ça.
Ben, en fait, quelques mois avant, on avait Social Justice Warrior. Quelques mois avant, on avait rectitude politique. Donc, ils ont changé de mot parce qu'ils ont essayé celui-là. Il a très bien fonctionné pour eux. Mais c'est un mot qu'ils ont pris des États-Unis. Ils reprennent comme ça beaucoup d'idées des États-Unis, mais ils nous disent publiquement, et pour faire encore plus peur, ils nomment les champs d'études avec lesquels ils sont en désaccord ou qu'ils n'aiment pas en anglais, alors qu'on pourrait tout à fait les nommer en français. Donc, ils vont dire les gender studies, les race studies, et donc c'est les studies, je ne sais pas pourquoi ils disent ça en anglais. Gender, ils vont dire le gender, alors qu'évidemment, il y a un mot français qui est genre, en fait. Mais ça fait plus peur qu'on le dit en anglais. Et donc, même si, en fait, ils s'abreuvent et s'inspirent et, en fait, se font des transfusions de sang importées directement des États-Unis, en France, il y a aussi ce discours anti-américain qui dit il faut faire attention à ce qui se passe aux États-Unis. Nous, en France, on n'est pas pareil. Et il faut protéger cette distinction française plus universaliste, plus civilisé, et sur l'attaque contre les féministes et les antiracistes, c'est très clair. Ils disent il y a un modèle américain qui est, du côté des féministes par exemple, qui est imaginé, fantasmé en grande partie, mais ils vont dire c'est des féministes, elles sont anti-sexe, elles sont puritaines, elles criminalisent le désir, alors que nous en France, on aime les femmes, on est des romantiques, et c'est pas ce genre de féministes qu'il nous faut. Donc ces réactionnaires-là, ils sont réactionnaires pour toutes ces raisons.
Dans un chapitre, moi, qui m'a évidemment plu, parce que bon, on parle de Monsieur Blanquer, hein, et de Jean-François Roberge. Donc, c'est assez drôle parce que Monsieur Blanquer nous a fait énormément de services de valeurs, de la République, le sens civique, lutter contre l'obscurantisme, etc., avec des
Même les
menaces.
vêtements républicains pour les jeunes.
Tout à fait, exactement. Donc on a eu et ça continue, hein. On a Gabriel Attal qui est dans la même ligne, l'autorité, remettre le sens civique, etc. Mais ce qui est assez fou en fait, c'est que ça s'accompagne toujours d'une destruction aussi institutionnelle. Alors là, pour le coup, c'est pas une destruction de valeurs, c'est qu'on nous met dans un échec ou en tout cas, ça permet de masquer en fait une mise en échec des personnels. C'est-à-dire qu'on va raboter, on va faire des plans sociaux, on va pas dédoubler des classes, etc.
Oui.
On va faire toutes sortes de choses, mais surtout pour masquer, et on n'en parle jamais de ça. Est-ce que vous avez repéré ce fonctionnement en fait de masque en fait? Finalement, on parle de ça, mais on est vraiment dans la logique de
Oui.
diversion pour ne pas parler des questions institutionnelles, des questions sociales, du déclassement de certains établissements dans les zones rurales. Et par contre, on va nous parler valeurs de la République, laïcité, et
Oui.
on va saisir un film en disant il faut que ce soit un catéchisme laïque. Est-ce que
Oui.
ça...
C'est un très bon point parce qu'en fait, effectivement, les réactionnaires, ils reprochent à la gauche ou aux progressistes d'aujourd'hui d'avoir abandonné l'analyse sociale ou la critique sociale pour ce qu'on appelle la politique des identités ou identity politics, la politique des identités ou des minorités. Mais en fait, c'est les réactionnaires qui sont totalement obsédés par par les minorités, par les valeurs et qui ont totalement. Non seulement ils ont abandonné, je ne sais pas s'ils l'ont déjà eu, mais ils sont totalement aveugles aux enjeux sociaux. Et donc, c'est un très bon point que vous soulevez. Tous les livres là qui sont sortis dans les dernières années et tous les textes et toutes les enquêtes sur Les féministes détruisent les facs, ou les antiracistes détruisent les facs, ou les indigénistes, ou les décoloniaux, appelez ça comme vous voulez, détruisent les facs, etc. La liberté d'expression à la fac et les universités, qu'est-ce qui arrive à nos universités sont détruites. Mais ces gens-là, ils ne s'intéressent pas du tout de ce qui se passe réellement dans l'université. S'ils étaient vraiment inquiets par l'université, ben déjà, ils verraient, en tout cas, c'est la même chose au Québec, qu'il y a un grave problème de financement. Et que le financement a un impact sur la capacité à mener des recherches et à enseigner, évidemment, et que la liberté académique, ben, si vous n'avez pas de fonds, la liberté académique, c'est un beau principe, mais ça reste un peu abstrait. Et donc ça, je le dis là-dessus, mais on pourrait le dire sur d'autres enjeux. Les réactionnaires prétendent s'inquiéter de ce qui arrive réellement à ce qu'ils appellent le peuple, le vrai peuple, les gens ordinaires. Mais en réalité, ils s'en préoccupent pas du tout. Là, ils essaient de faire peur aux gens ordinaires avec, par exemple, les trans. Mais les trans, je le dis comme ça, là, mais on s'en fout des trans dans le sens, les trans n'enlèvent rien à la majorité des gens en faisant des transitions, en changeant de sexe, ça ne change rien. Et donc, en fait, les gens ordinaires ou le vrai peuple, comme ils les appellent, ben, c'est pas de lutter contre les drapeaux arc-en-ciel là qu'il a besoin. Là, c'est pas ça l'enjeu. Là, il a besoin que la situation économique, que l'écart absolument abyssal entre les riches et les pauvres soit pris en compte, qu'on ait comme des réflexions là-dessus, qu'on discute, qu'on essaie de trouver des solutions. Mais cette droite ou cette extrême droite réactionnaire dont je vous parle, elle n'a rien à dire là-dessus. Et en
Alors,
fait, non seulement elle n'a rien à dire là-dessus, mais quand il y a de timides propositions, par exemple, je vous donne un exemple très rapide parce que ça concerne le Québec, ça ne vous concerne pas directement.
oui, c'est intéressant de faire les liens aussi, voilà, parce que
Mais nous, on a un parti de gauche molle, quoi, que ça s'appelle Québec solidaire. Rien de très anticapitaliste, mais toujours décrit comme gauche radicale dans les médias. Parti de la gauche radicale, donc il y a 2-3 ans, avait proposé quelque chose de très simple. Il disait, on va imposer une taxe spéciale à toute personne qui a 1 million de dollars et plus de capital immobilier. Ils se sont fait, mais démolir, démolir. Ça représentait à peu près 800 euros de taxes de plus par année pour les personnes qui avaient l'équivalent d'à peu près 700 000 euros d'immobilier. Ils se sont fait, mais ils ont été totalement démolis. Et donc ils ont reculé. Et là ils reviennent à la charge et ils disent on propose une taxe spéciale pour les personnes qui ont 25 millions de dollars de taxes d'immobilier là. 25 millions, ils sont passés de 1 million à 25 millions. Mais les mêmes s'y opposent. Mathieu Bock-Côté qui dit qu'il est pour le peuple, il est contre. Moi, je me dis, dans 2 ans, il devrait revenir avec 100 millions, 100 millions de dollars d'immobilier pour voir si on peut imposer une taxe à des gens qui ont 100 millions. D'après moi, les mêmes vont être encore contre. Et donc, en fait, et je ne dis pas que cette taxe réglerait
Oui,
les
non,
problèmes de pauvreté et tout, mais c'est juste pour voir l'esprit de dans quel état d'esprit il se place. Donc, il
non.
reproche aux progressistes d'avoir abandonné la question sociale. Mais dès que les progressistes reviennent avec la question sociale, ben ils déchirent leur chemise.
Oui, et ils sont maximalistes, c'est-à-dire qu'ils ne lâchent jamais du terrain, en fait. Jamais, jamais. D'où les réactions complètement délirantes, ouais. Et en parlant très vite de communisme, enfin ça, les glissements vont.
Vous proposez de taxer des gens qui ont 25 millions de dollars d'immobilier, on vous parle de Staline, là.
Alors après, moi c'est la réflexion que j'ai justement en lisant, parce que vous parlez de ce cas dans le livre qui est intéressant. Je me souviens avoir fait un message comme ça sur les réseaux sociaux où je disais, ben finalement, est-ce qu'on a besoin de milliardaires, quoi? Est-ce qu'une société se porte bien parce qu'il y a des milliardaires? On pourrait très bien imaginer une société où c'est impossible, ce soit
Évidemment,
impossible en fait, de devenir
évidemment.
milliardaire. Et en fait, ce qui est troublant, c'est qu'on a des réactions qui sont massives. Et qui sont très hostiles de la part de gens qui ne savent, enfin, et moi non plus d'ailleurs, qui n'ont pas l'idée en fait de ce qu'est un milliard. Pour moi, ça ne veut rien dire. C'est un chiffre qui n'a aucun sens. Je ne sais
Aucun
pas ce que
sens.
c'est. Ça ne renvoie rien, ça ne renvoie aucune pratique, ça ne renvoie à rien d'une expérience quelconque. Je peux même pas me le figurer en fait. Hein. On est dans l'ordre de l'inimaginable. Et
C'est
je me
1 000
dis,
millions, non? 1 milliard, c'est 1 000 millions, non?
c'est ça, ouais.
Donc 1 000 millions, c'est vous avez à peu près 2,5 millions par jour.
Voilà, c'est bon. Donc c'est tout à fait effrayant. Alors cette question-là, moi, elle m'interroge aussi par rapport à la réception de ce discours-là. Comment on peut expliquer que ce discours-là soit audible en fait? C'est ça, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est le côté je dirais, le côté populaire, en fait, finalement. Alors, je ne dis pas que c'est si populaire que ça. Peut-être qu'on entend ceux qui s'expriment sur ce sujet, peut-être. Mais voilà, ça me trouble, en fait. Comment on en est arrivé là, quand même?
C'est pas en fait je pense que ce que j'essaie de montrer en fait donc dans le petit livre là dont on parle L'art de la guerre culturelle qui est un recueil de textes que donc ça prouve que je commence à vieillir. C'est peut-être un des seuls avantages de commencer à vieillir, c'est qu'on peut regrouper des textes qu'on a publiés depuis une vingtaine, trentaine d'années.
C'est
Mais
vrai.
en fait c'est que c'est pas nouveau et c'est
Non.
vraiment une des je sais pas si c'est une clé d'explication, mais c'est pour ça que je reviens dans les années 90 à des textes où j'épinglais la panique au sujet de rectitude politique ou political correctness. C'est, je dis, mais en fait, c'est exactement la même chose qu'on entend aujourd'hui à propos des woke, là. C'est pareil, ils ont juste enlevé le mot political correctness, ils ont mis le mot woke, et puis c'est exactement les mêmes débats. C'est encore sur les campus universitaires, on dit la même chose. Pourtant, c'est bizarre, dans les années 90, apparemment, les féministes et les antiracistes avaient détruit l'université, les sciences humaines, les sciences sociales. Et ben non, apparemment, non, finalement, ils n'ont pas été si efficaces que ça, puisqu'ils sont encore là, les sciences humaines, et se font encore détruire aujourd'hui. Donc, mais c'est exactement les mêmes termes. Et j'aurais pu remonter avant. Moi, bon, c'est mes interventions qui étaient liées à l'actualité dans les années 90. Évidemment, j'ai pas 100 ans non plus. Mais si j'avais eu 100 ans, ben, probablement que je serais allé dans les années 60. Et là, on aurait vu des discours. Là, c'est la guerre froide. Donc, ça a été vraiment le bon vieux anticommunisme, mais qui fonctionnait un peu avec des ressorts similaires. Et donc, autant du côté des progressistes, vous avez évidemment des arguments récurrents qui filent dans le temps. Les féministes, ça fait quand même 150 ans qu'elles dénoncent le sexisme, les violences à caractère sexuel, l'exploitation domestique, l'exploitation dans le couple, etc. Mais elles ont beau dénoncer et contester, ça s'améliore lentement et et régulièrement, ben, il y a un nouveau Patrick Bruel ou Gérard Depardieu qui apparaît. Mais les socialistes, ça fait des générations et des générations et des générations qui disent le système capitaliste nous mène à notre perte sociale et même maintenant écologiste. Hein, et ils le répètent et ça bouge pas. Donc de l'autre côté aussi, ça répète, ça répète, ça répète. Ce sont des choses qui se répètent et les gens s'en convainquent. Et là-dedans, il y a des gens qui paniquent pour des choses que je considère insignifiantes dans le sens, insignifiantes dans le sens où ça n'a pas nécessairement d'impact sur la vie de ces gens-là. Mais ils en font quand même une affaire d'État. Et puis il y en a d'autres, ben en fait, ça sert leurs intérêts concrets. Mais je reviens avec cette question des intérêts, parce que tout à l'heure, j'ai donné l'exemple des trans. Mais moi, je passais 6 mois en France pour faire de la recherche à l'hiver et au printemps 2013. Vous vous en rappelez, c'était le mariage, la manif pour tous, qui n'était pas pour tous du tout, en fait. Et c'était contre le mariage pour tous.
Ouais.
Et c'était incroyable, cette mobilisation contre le mariage pour les personnes du même sexe. Je me suis dit, en faisant de l'ironie, évidemment, du sarcasme, je me suis dit, ah, c'est comme si en France, en fait, il y avait un nombre de mariages limités et que donner le droit de mariage aux homosexuels, ça enlevait de la possibilité à des hétéros de se marier. Et donc, je me suis dit, ça doit être pour ça qu'ils paniquent. Ils pourront plus se marier, les hétéros. Évidemment, c'est ironique, là, je fais du sarcasme parce qu'en fait, donner le droit de mariage à des personnes du même sexe n'enlève absolument pas la
Oui,
possibilité aux gens de se
non,
marier et de
voilà.
divorcer, de se remarier, de redivorcer, de se remarier. Là, c'est pas comme ça que ça marche. Mais
Ouais,
on
on
a
a
vu la
entendu.
mobilisation.
Tout
Mais
à
on a vu
fait.
la mobilisation de ces gens-là, c'était
Ah oui, on a
incroyable.
entendu des choses tout à fait étonnantes. Je me souviens de
Et le
deux
nombre,
interventions.
et
Ah
le
oui.
nombre.
Oui, puis
Je veux dire,
des arguments
ils étaient vraiment en
délirants.
colère, ils étaient vraiment en colère.
Oui, des arguments assez délirants.
Ils avaient l'impression que c'était leur famille qui était sous attaque, là, alors que leur famille était sous attaque de rien du tout, là. Et donc, des fois, les gens comme ça, ils se prennent d'une cause, ils sont extrêmement engagés dans cette cause, c'est très émotif, ils sont réellement en colère, ils sont réellement scandalisés. Mais quand on y pense 2 secondes, en fait, en termes d'intérêt, c'est absurde, quoi.
Et est-ce que c'est lié, d'après vous, à des agendas politiques? Parce que ça peut être une instrumentalisation politique. Là, il y avait évidemment l'élection de François Hollande. Bon, donc, est-ce que c'est vraiment des agendas politiques ou est-ce qu'il y a une forte adhésion? Enfin,
Ben moi, je pense qu'il peut y
quand
avoir.
par
Moi, je pense
exemple
que.
un politique, quand par exemple un politique explique que si, on l'a entendu à l'époque, on l'a entendu, si on laisse le mariage pour tous, alors on pourra demander à se marier avec son poisson rouge. J'ai entendu ça. ce qui n'est pas une demande sociale, ce qui est un peu délirant, mais qui ne renvoie à rien, ce n'est pas une demande sociale. Ou alors, autre exemple, que le mariage pour tous, lui, n'est pas naturel. Donc on confond le mariage, la sexualité encore, enfin on mélange tout, on a entendu des choses étonnantes. Mais est-ce que moi c'est le degré de, comment dire, de manipulation? Est-ce qu'on est vraiment dans une manipulation, une adhésion? Et qu'est-ce qui peut expliquer cette adhésion tout d'un coup à des choses comme ça?
Bien, on est en partie dans une stratégie de manipulation. Après ça, il faudrait demander à chaque personne qui était à la
Oui,
manif
c'est
pour tous,
compliqué.
qu'est-ce qui en pensait. Mais ça a été fait. D'ailleurs, il y a eu beaucoup d'enquêtes sur ce mouvement-là. Mais pour revenir à la question de la manipulation, oui, il y a de la manipulation des esprits. C'est ce qu'on appelle aussi, il y a d'autres termes, hein, de la propagande. Bref, il y a d'autres termes. Et dans la guerre culturelle, dans ce que j'observe ou j'analyse ou ce dont je discute, je reviens là à ce que je disais au tout début, c'est de nommer l'ennemi dans cette guerre culturelle pour montrer qu'il est une menace pour la nation, une menace pour la civilisation, une menace pour nos valeurs fondamentales. Et donc, une fois que vous l'avez épinglé ici, ben en fait, il y a des gens qui vont se mobiliser. Donc, vous catégorisez votre ennemi comme un problème fondamental. Et je reviens rapidement pour donner un exemple très précis en termes de propagande, là, dans ce cas-là, électorale. La dernière campagne électorale présidentielle où Donald Trump a battu Kamala Harris, donc la candidate du Parti démocrate, chez les démocrates, plusieurs analystes neutres, entre guillemets, et plusieurs dans le camp républicain ont dit, ben, les démocrates ont été battus parce qu'en fait, ils ont trop parlé des trans, ils ont trop parlé des minorités de genre et sexuelles. Et donc, c'est de la faute des démocrates de s'être trop intéressés aux minorités
Ça, c'est quelque chose qu'on peut entendre en France aussi.
Ah, absolument, ça a été répété, et comme je dis, même par des démocrates. Et donc, ils avaient un peu oublié l'homme blanc de classe moyenne, et celui-ci, donc, s'est senti trahi, et donc est allé vers Trump. En fait, quand vous regardez les données objectivement, parce que là, le temps passe et il y a des chiffres qui sortent, en fait, c'est les républicains qui n'arrêtaient pas de parler des trans pendant la campagne électorale. Ils ont dépensé des centaines de millions de dollars en publicité télévisée juste sur les jeunes trans dans ce qu'on appelle aux États-Unis les swing states, les États pivots, donc les États où la campagne électorale se joue réellement, pour faire croire à l'opinion publique, pour faire croire à l'électorat que les démocrates étaient obsédés par les trans et n'en avaient que pour les trans et ne pensaient qu'aux trans que toute leur politique était liée aux trans. C'est les républicains qui ont fait croire ça aux gens. C'est les républicains qui sont obsédés par les trans. Si vous allez sur Fox News en ce moment, à peu près tous les 2 ou 3 jours, il y a une nouvelle sur un élève trans dans une école quelque part, et puis c'est un scandale, et puis ils nous parlent de ça, etc. Vous allez sur CNews, ils ne parlent pas des trans, là. Et donc, oui, il y a une manipulation dans ce sens-là. Et l'objectif dans ce cas-là, très précisément, c'était très clairement de dire, il faut que les gens, quand ils entendent Parti démocrate, pensent, ils vont changer le sexe de mes enfants.
Ouais, c'est ça, c'est du coup. Mais ça me fait penser à Bolsonaro avec le kit gay, hein, avec Titeuf, et ce qu'il avait fait avec ses réseaux
Oui.
WhatsApp, et c'était délirant, hein, c'est le kit
Oui.
gay, donc on allait changer exactement, donc c'est des
Oui.
associations d'idées. Alors, on
Et
va.
moi, j'ai un certain âge, comme je disais tout à l'heure. Donc, moi, je me rappelle quand même des années 70-80. Je faisais pas de recherche à l'époque, mais bon, j'étais jeune. Et c'était, disons que les années 70, c'était, en France, c'est la même chose, hein. C'était le début, disons, du mouvement gay. On l'appelle le mouvement gay et lesbien à l'époque. Donc, c'était le mouvement gay et lesbien contemporain. Et il commençait à avoir des enseignants, ça a été la même chose en France, hein, aux États-Unis, il commençait à avoir des enseignants qui faisaient leur coming out, et il commençait à avoir une sorte de panique sur, ah ben non, mais un enseignant gay, c'est dangereux. Un, il va convaincre tous ses élèves de devenir gays. En plus, il va tous les agresser. Puis à partir des années 80, il va tous les contaminer au sida. Ça, c'était parce qu'on sait bien, entre vous et moi, que les hétéros n'agressent jamais les enfants, évidemment, sauf
Non,
peut-être une
jamais.
fois au Vatican.
Jamais. Alors, on va prendre des questions. Donc, j'ai une question de Rose et de Farah. Donc, je vais commencer par la question de Rose. Pourquoi ne pas parler de bataille idéologique? C'est ça la question. Guerre culturelle. Et pourquoi finalement ne pas parler de bataille idéologique? Donc, ça, c'est la première question. Et la deuxième question qui rejoint un peu la discussion, mais je crois que c'est intéressant d'approfondir encore ce point parce que ça questionne beaucoup. Comment expliquer que ce mécanisme de panique morale fonctionne aussi auprès de populations qui ont pourtant tout intérêt à soutenir donc les luttes progressistes?
Oui, je prends des notes. Attendez juste une seconde, je dois libérer mon chat.
Ça marche.
Je m'excuse. Donc, je suis désolé, je n'ai pas pris le nom des personnes qui m'ont posé les questions, mais la
Alors,
première
c'était
question, donc, sur
Rose,
Bet.
Rose et Farah.
Oui. Donc, merci pour ces Rose et Farah pour ces deux questions. Donc, bataille idéologique, oui. Ben, en fait, quand on écrit, quand on discute et qu'on cherche un titre, évidemment, on fait des choix. Guerre culturelle, comme je l'ai dit, c'est que c'est vraiment lié à. C'est une expression qui est vraiment en usage ici en Amérique du Nord. Il y a des livres qui proposent des études, des enquêtes sur la notion de guerre culturelle, mais vous avez tout à fait raison. D'une certaine manière, c'est en partie un synonyme, là, ou en tout cas, c'est très proche de bataille idéologique. J'ai parlé de propagande aussi tout à l'heure dans la discussion. Mais la référence à la culture est peut-être plus précise que l'idéologie en général. La culture, c'est vraiment, donc, c'est une bataille, comme je disais tout à l'heure, c'est une bataille pas juste idéologique, parce qu'on pourrait avoir une bataille idéologique sur bien des enjeux qui touchent pas nécessairement les valeurs fondamentales ou dites fondamentales d'une société, mais l'idée de guerre culturelle, c'est de définir ce qu'on pourrait appeler l'identité culturelle de la France ou l'identité culturelle des États-Unis ou l'identité culturelle du Québec ou du Canada. Alors, entre vous et moi, évidemment, ces identités culturelles, pour moi, elles ne sont pas. Ben, premièrement, elles ne sont pas éternelles. Deuxièmement, c'est jamais homogène. Il y a toujours de la contradiction et de la conflictualité dans une culture nationale. C'est pas quelque chose qui est tout à fait figé. Il y a aussi une influence très forte des institutions, de la loi, de la constitution, des gouvernements qui, là, depuis 20, 30 ans, par exemple, il y a une obsession en France et au Québec, par exemple, sur la laïcité comme une valeur fondamentale de, ben, il y a 50 ans, personne ne parlait de laïcité, ou à peu près pas, en fait, là. Donc, en fait, ça peut vraiment bouger selon les moments, mais c'est pour ça que la référence à la culture, je pense, est importante, donc d'où le choix du titre. Mais bataille idéologique, c'est très proche et c'est très près. Comment expliquer que les paniques morales fonctionnent, y compris auprès de populations dont ce n'est pas leurs intérêts? Il y a plusieurs explications. J'ai tenté d'en avancer quelques-unes tout à l'heure en parlant, par exemple, de la puissance des médias. La puissance des médias, ça a été bien étudié là en théorie des communications et en étude des médias. C'est pas nécessairement que ça fait vraiment que ça modifie à tout coup les valeurs ou la manière dont les gens pensent, mais la puissance des médias, c'est que ça fait penser à certains sujets plutôt qu'à d'autres. D'où l'importance des exemples que je viens de donner, par exemple, au sujet des trans, par exemple. Donc, est-ce que en France, on veut un débat public ou une polémique nationale au sujet d'une mère qui a accompagné son enfant dans une activité parascolaire et qui porte le hijab? Est-ce que c'est ça le sujet de débat national? Ou est-ce qu'on parle des milliardaires? Et des milliardaires et de comment ils font leur argent. Est-ce qu'on parle des militants d'extrême gauche qui déboulonnent une statue de Christophe Colomb, disons, bon, bref, ou est-ce qu'on parle des policiers qui tuent des personnes innocentes? Et donc, c'est ça. C'est donc l'enjeu, c'est de quel sujet on va débattre pendant des fois des semaines, qui va attirer l'attention publique, qui va mobiliser les politiques, qui va faire des lignes de fracture entre positions politiques. Et donc c'est pour ça que ces paniques morales, elles sont si efficaces, parce qu'elles imposent des sujets. Et donc là, tout le monde doit avoir un avis sur le hijab, par exemple, plutôt que sur les milliardaires, voilà, justement. Et donc c'est pour ça que ça fonctionne. Puis l'autre chose aussi, c'est que dans des régions où vous avez des populations où vous dites ben, c'est pas dans leur intérêt, mais en fait souvent les gens ont plusieurs intérêts. On revenait tout à l'heure, on a parlé de la manif pour tous contre le mariage pour tous. Ben c'est pas mon cas, mais il y a des gens qui ont des interprétations du catholicisme, par exemple. fortement imprégnés d'homophobie. Et leur identité catholique peuvent être extrêmement importantes pour ces personnes-là. C'est constitutif chez eux. C'est leurs liens sociaux, leurs relations sociales sont liées à cette identité-là. Et donc, quand ils ont l'impression que cette identité est attaquée ou menacée, ils vont se défendre, même si matériellement, ça change rien à leur vie en réalité. Et donc, de la même manière, des populations, disons, économiquement défavorisées, vous dites, mais c'est bête, en fait, elles sont pas en train de se défendre, elles se font berner par des fausses menaces ou par des faux problèmes. Mais oui, mais elles ont aussi d'autres identités, d'autres logiques de voir ce qui est important pour elles, au-delà des intérêts purement matériels. Il y a des enjeux de relations de famille, de relations de quartier, etc. Et donc, elles peuvent se faire prendre comme ça dans un effet de panique morale.
Après, c'est des vieilles stratégies de guerre politique. Hein. Ça me fait penser à Hobbes quand il dit la peur des puissances invisibles est plus grande encore que la peur des puissances visibles. Et donc le rapport à
Tout à fait.
l'imagination, l'idée de décadence, d'effondrement moral. Pour compléter Rose, j'ajouterais ce que dit Francis. Je pense aussi, évidemment, guerre culturelle parce que au fond, les batailles idéologiques supposent quand même des échanges d'idées et de raisons. Et ça permet en fait de mener des batailles idéologiques, entre guillemets, mais en faisant des excommunications culturelles. C'est-à-dire qu'on va utiliser la culture, c'est un peu du low cost, quoi. On a plus besoin de se battre vraiment en donnant des raisons. Moi, c'est ce qui m'interpelle enfin véritablement dans le champ politique, c'est qu'il n'y a plus vraiment de combat au sens idéologique, mais il va y avoir des excommunications. Ça me fait penser un peu à la marque noire dans l'île au trésor de Stevenson. Où tout d'un coup, on se retrouve avec la marque noire et islamo-gauchiste, je vois, et on a la marque noire et c'est fini. C'est-à-dire qu'on est étiqueté, en fait, et à partir de là, on est disqualifié. Il y a un côté sorcier, un peu, je trouve, dans ces logiques-là, quoi, de disqualification, en fait, qui sont infrarationnelles. Donc, ça, c'est un point que je trouve intéressant. J'avais une question, Francis, sur. Alors, dans Critique de la raison cynique, c'est au tout début, Sloterdijk dit, mais le problème, c'est qu'il y a tellement à critiquer qu'on ne sait pas trop par où s'y prendre. Et en fait, ce qui, moi, m'a intéressé dans le livre, c'est que, en fait, vous avez un peu évolué, je trouve. C'est qu'au début, c'est les articles sont. Finalement, vous citez un peu moins au début, et après, beaucoup. Et c'est beaucoup plus. L'ironie est toujours là, mais on sent qu'il y a une volonté vraiment d'aller au contact, pas simplement de faire une critique un peu à distance, en décalant le regard, quoi, avec une rhétorique de combat, on va dire, mais vraiment voilà, de prendre ce qui est dit, hein, de prendre l'époque dans ses mots pour justement mener le combat. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où c'est un peu désespérant parce qu'on se dit, mais il y a tellement, en fait, le flux est tellement immense. Que souvent on peut nous taxer et nous dire oui, mais bon, on s'en fout, ou après tout, oui, on le sait. Qu'est-ce que vous répondriez à ces gens, un peu les aquabonistes de la dernière demi-heure, qui se disent oui, mais ben, on l'a déjà vu, etc.
Oui, ben, deux choses. Le premier commentaire, c'est sur nommer ou pas nommer. Et puis après ça, à quoi bon? Donc, je pense que j'avais pas noté, mais en fait, oui, je pense que vous avez raison, effectivement, que plus les années avancent, plus je nomme
J'ai
des.
observé à la lecture un peu, hein.
Oui, je n'y avais pas pensé, mais je pense que vous avez raison, des adversaires. Je pense que c'est lié aussi à des transformations des modèles d'affaires dans les médias que vous connaissez très bien en France. Qu'on connaît aux États-Unis, qu'on connaît au Québec, c'est-à-dire ce modèle d'affaires qui se fonde de plus en plus, qui donne une part de plus en plus importante au commentariat et aux vedettes du commentariat plutôt qu'au journalisme d'enquête, au reportage. Ça, c'est vraiment une transformation très, très importante qu'on a vue aux États-Unis, toutes les chaînes en continu. Évidemment, je vais nommer CNews. Bref, donc c'est. Et donc, vous aviez des. Il y a des journaux, par exemple, aussi, qui, dans les années 90-2000, avaient peut-être un chroniqueur par jour et un éditorial, par exemple, une chronique et un éditorial. Et puis maintenant, ben, c'est 4, 5, 6 chroniques, des fois, dans la même édition, parce qu'en fait, c'est un modèle d'affaires qui fonctionne très bien, qui vend, qui est efficace et qui n'est pas très coûteux. Il faut payer le salaire de ces vedettes-là, mais. Ces vedettes-là ne font pas de reportage, ne font pas d'enquête, ne vont pas sur le terrain pendant plusieurs semaines pour creuser un sujet. Et donc, ça fait qu'il y a des personnalités qui ressortent beaucoup plus aujourd'hui en plus grand nombre. Et donc, c'est pour ça que je les nomme. J'ai mes représentants favoris du courant réactionnaire que je suis avec passion et quotidiennement. Voilà. Et après ça, à quoi bon? Mais en fait, c'est peut-être pas un très bon argument de vente. Mes éditrices sont pas contentes de Textuel, mais moi, en fait, ce livre-là, c'est. En fait, quand je suis énervé, j'écris. Donc, en fait, c'est des textes de réaction. Donc, on va me traiter de réactionnaire. C'est des textes de réaction à l'actualité, à l'actualité politique, sur des sujets qui m'ont énervé. Voilà, des débats, des polémiques qui m'ont énervé. Et une de mes manières de gérer mon énervement, ben, c'est de leur donner la réplique. Mais je vous rassure, je fais autre chose dans ma vie aussi. Qui est peut-être plus constructif. Est-ce que c'est efficace ou pas? Je ne sais pas. Moi, j'ai eu des discussions, j'ai eu des retours. C'est pas pour me vanter, mais c'est parce que vous posez la question, sinon j'en aurais pas parlé. Mais moi, on m'a dit que oui, quand même, d'une certaine manière, ça donne de l'oxygène, ça fait du bien que un tel se fasse donner les répliques. Ça a une certaine efficacité. Ça donne aussi des outils. Hein. Ça peut être une boîte à outils d'arguments. Dans les repas de famille avec votre oncle réactionnaire, pas votre oncle à vous, mais l'autre oncle, là,
Mon oncle à moi,
l'oncle,
si, si. Il y en a partout.
l'archétype de l'oncle réactionnaire, bref, ça peut donner aussi des outils. C'est un peu l'espoir hein, que ça donne aussi un peu des outils parce que c'est des guerres culturelles, des batailles idéologiques, ils se mènent aussi au quotidien, des fois dans des moments où on s'y attend pas, au détour d'une phrase, ça part comme ça entre amis, etc. Et donc, mais ça, cette bataille-là, c'est une bataille qui est un peu désespérante parce qu'effectivement, les forces adverses sont si puissantes. Et je le dis un peu dans l'introduction, là, dans la préface, je dis un peu, souvent le moral des troupes est à plat, mais on continue. Il y a un terme en français, c'est la rage du désespoir.
Ouais. Ce qui est intéressant, alors la question, voilà, on partage, on est beaucoup à partager hein, ce questionnement, cette rage du désespoir, mais ce qui est intéressant, je pense, c'est de revenir, parce que là, bon, peut-on gagner la guerre, mais c'est aussi les méthodes. Il faut bien voir une chose, c'est qu'il y a une façon d'aborder la question. Par exemple, l'ironie à distance, c'est une technique. C'est une façon à la fois de dire, de montrer et d'être au fond dans la révélation. C'est-à-dire que le lecteur se dit, ouais, mais en réalité, qu'est-ce que je suis en train d'avaler? De la mauvaise nourriture. C'est pas vraiment comestible tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se laisse très vite embarquer. Lorsqu'Althusser, justement, et un peu comme Gramsci, hein, il dit en fait, la question c'est est-ce que vous utilisez les mots de l'autre? C'est-à-dire qu'à partir du moment au fond où on utilise le mot de l'adversaire, ben, il a déjà un peu gagné, quoi. Et c'est pour ça que c'est très très compliqué, parce que si on n'utilise pas les mots, ben, on est un peu inaudible et puis on ne sait pas de quoi on parle. Et si on utilise les mots, ah, donc, il faut retrouver ce décalage ironique. Et ça c'est quelque chose qui peut donner à penser. Aujourd'hui, on parle beaucoup dans l'institution scolaire de laïcité, de toutes ces valeurs, sauf qu'on n'applique pas ça. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on travaille réellement ces outils de défense intellectuelle, de défense critique, d'utilisation de l'ironie, enfin, parce que c'est assez subtil en réalité hein, de faire ce travail-là. C'est pas un travail qui est facile, et moi je trouve qu'il a été trop longtemps un peu dénigré dans le milieu universitaire, ce travail critique. Comment on affronte ça? Pas faire des grandes théories, mais aller mettre vraiment les mains pour faire ce travail-là. Est-ce que dans votre transmission universitaire, vous le sentez ça?
Oui, absolument. Et je fais de l'ironie en classe d'ailleurs. Des fois, c'est pas très bien compris, mais oui, une des manières une des manières pour aborder ces sujets-là et pour les travailler, c'est de même si c'est ça que ça laisse entrevoir la question de la guerre culturelle, c'est de pas nécessairement être sur un essayer de se placer sur un piédestal de supériorité morale. Mais de mettre la main à la pâte et d'aller voir les chiffres et la réalité. Donc, quand les polémistes réactionnaires soulèvent une polémique au sujet d'une anecdote ou d'une affaire, ben justement, aller voir les chiffres, aller voir en quoi c'est représentatif ou pas, et essayer de donner une image plus claire de c'est quoi en fait les grandes tendances sociales au-delà de cet événement, de cette anecdote, et ça permet, disons, de mettre en lumière le fait qu'ils essaient de nous manipuler, ouais.
Alors, ironique, il peut ne pas être comprise. Par exemple, lorsque vous titrez « Je veux être une femme voilée », hein, 30 septembre 2015, alors il faut comprendre l'ironie, c'est-à-dire qu'elle est tellement puissante, elle a tellement la capacité de déclencher des guerres, hein, pour qu'on la sauve, hein, dans une sorte là de hein, d'acte de générosité humaniste, hein, on va aller envahir des pays, bombarder, hein, pour sauver. Bon, évidemment, ça, comment dire? C'est difficile de enfin on peut aussi vous dire ah ben oui ben finalement au fond vous défendez par une sorte d'ironie à trois bandes le voilement comme figure patriarcale de domination qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça c'est sur ces questions-là qui sont des questions sensibles en fait et...
Oui, ben, il y a plusieurs textes, comme vous le savez, là, dans le livre, il y a plusieurs textes, il y a plusieurs textes sur les guerres qui ont été menées contre des pays à majorité musulmane. Donc,
Ok,
Afghanistan,
ça c'est un
Libye,
point important du livre, hein. Je voulais y venir sur
Irak,
cette partie
etc.
plus
Et,
internationale.
ouais, et donc, mon travail là-dedans, c'est surtout de déboulonner, de déconstruire, en fait, la rhétorique militariste, la rhétorique interventionniste, la rhétorique. À une autre époque, on aurait parlé d'impérialisme. Donc, c'est mon travail de montrer que on nous a bien vendu ces guerres, mais que c'était une opération là de manipulation de l'opinion publique pour vrai. Et moi, je fais le lien que d'autres personnes font, mais souvent pas tant que ça, je trouve, entre en guillemets les débats ou les polémiques au sujet du hijab et ces guerres. Pour moi, elles sont liées dans le contexte et dans la séquence historique.
En quel sens? Est-ce que vous pouvez développer ça?
Absolument, absolument. Et donc, justement, dans ce texte qui a un titre Je veux être une femme voilée, qui est un titre un peu. Bref, ce titre-là. Dans Je veux être une femme voilée, la moitié du texte, c'est. J'explique, mais en fait, c'est bizarre parce que. En Afghanistan, la femme voilée, c'est la totalement impuissante. Elle est la totalement dominée et on mène des guerres en prétendant qu'on fait ces guerres pour la libérer. Et après ça, on se réjouit de voir des photos de files de femmes qui portent la burqa qui vont voter dans des bureaux de vote à Kaboul et on dit mission accomplie, on a apporté la démocratie à ces femmes, on les a libérées. Mais curieusement, quand la femme qui porte le hijab n'est plus en Afghanistan où il faut la libérer parce qu'elle est absolument impuissante, mais où elle se retrouve en France, ben là, apparemment, c'est elle qui envahit la France, qui détruit tout, elle est totalement surpuissante, elle menace toutes les institutions, même si elle n'est propriétaire d'aucune banque, si elle n'a pas de grande fortune, si elle n'est pas à la tête d'institution, mais cette femme-là, toute seule, simplement en accompagnant son enfant dans une activité parascolaire, par exemple, elle menacerait la civilisation française au grand complet. Et donc, moi, je vois un effet là, c'est pour moi, c'est deux logiques qui sont apparemment totalement différentes, sont en fait interreliées. On fait la guerre là-bas. Ici, on prétend qu'on est envahi par, par ces femmes musulmanes. Et donc, il y a plusieurs textes dans le livre qui sont qui travaillent, disons, cette rhétorique qui est une rhétorique xénophobe, là. C'est la définition même de la xénophobie quand il est question d'ici. J'ai un texte sur la fameuse guerre du Burkini là. Bref, il y a eu plusieurs séquences en France, vous les connaissez bien, mais je précise évidemment, vous aurez compris, je ne suis pas une femme voilée et si les personnes qui veulent parce que je le dis aussi, c'est pas, je suis pas le seul à l'avoir remarqué, bien d'autres l'ont remarqué avant moi et en même temps que moi. En fait, dans ces débats-là, en fait, on les entend pas, les femmes voilées, là. C'est quand même particulier. Là, vous pouvez organiser en France une série, il peut y avoir 5, 10, 15, 20, 30, 50 tables rondes dans des médias français sur la xième polémique au sujet des femmes voilées. Il n'y aura aucune femme voilée qui sera autour de la table à expliquer ce qu'elle pense que signifie le hijab, mais il va y avoir plein de messieurs en veston cravate, avec plein de diplômes ou pas du tout d'ailleurs, qui nous expliquent c'est quoi la signification de tout ça. Moi, j'ai hâte qu'on ait des débats et des panels dans les médias français par dizaines sur la signification de la cravate avec aucun homme qui participe à la discussion. Mais bref, ça c'est une autre question. Et
Il y a un
donc, il faut
texte à
aller.
ce sujet, il y a un texte, Francis, à ce sujet qui est très bon sur la cravate de votre côté, où ouais, il explique que c'est un signe quand même de verticalité civilisationnelle.
Absolument. Ben oui, ben.
C'est-à-dire que là, enlever la cravate, c'est déjà un effondrement.
À chaque.
Il y a quand même un potentiel comique chez ces gens qui est quand même
Oui.
exceptionnel. Hein.
À chaque année, Mathieu Bock-Côté fait au moins une chronique pour défendre le port de la cravate et il a fait la première page du magazine Dandy auquel vous êtes peut-être plus abonné. Il faut renouveler l'abonnement là. Mais je mentionne quand même dans quelques jours en France, là, sort un livre signé par Lisa Amar, qui est une doctorante en études littéraires, qui est une féministe anticapitaliste, qui par ailleurs porte le hijab. Et son livre, c'est Le hijab, leur obsession et nous. Il est déjà sorti au Québec. C'est un livre excellent. C'est un essai excellent, très, très éclairant. Donc, si vous questionnez vraiment sur cet enjeu et que vous voulez savoir ce qu'au moins une femme qui porte le hijab en pense, et elle le dit, elle l'explique vraiment très bien, je vous encourage à lire Le hijab, leur obsession et nous. Ça sort là je pense que ça sort le 28 mai en France.
Alors, j'ai des questions à nouveau, Francis, de Farah, qui est décidément très actif, et de Sofoukou, je crois que ça, voilà. Alors, la première question, comment expliquez-vous qu'un pays attaché à la laïcité et aux libertés comme la France soit devenu si réceptif à ces discours anti-woke? Parce que ça marche, hein. Il faut quand même le dire, hein. Et c'est pour ça qu'on a titré Peut-on gagner la guerre culturelle? C'est que c'est quand même bon. Encore une fois, la question n'est même pas de défendre, c'est ça où c'est subtil, hein. La question n'est pas de défendre le woke, hein. C'est même pas ça le problème. La question, c'est de démonter en fait les stratégies qui nous empêchent de politiser sérieusement les institutions et le social et nos conditions d'existence, quoi. C'est ce jeu-là qu'il faut bien comprendre. Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième, quelle est l'influence Soufoukou? Quelle est l'influence des réactionnaires nord-américains sur la France? Est-ce qu'il y a vraiment là une tendance? Alors, j'avais chroniqué le bouquin de Miranda sur les Lumières noires. C'était intéressant à ce sujet. Bon, sur un sujet plutôt Peter Thiel sur les questions du transhumanisme, enfin, on va dire sur ces questions-là. Mais il y a des liens quand même. Voilà, donc l'influence des réactionnaires nord-américains sur la France.
Excusez, je prends des notes, réflexe de vieux prof. Oui, ben la laïcité, écoutez, nous en plus ici, on dit nos politiciens disent qu'ils importent le modèle français de la laïcité, donc ça. On suit bien ce qui se passe et donc en fait on voit bien que à chaque étape en fait la laïcité donne un coup de vis de plus contre l'islam en réalité contre les femmes musulmanes qui portent le hijab, c'est en réalité elles qui sont ciblées. Et en fait le problème c'est que moi ma compréhension puis après ça il y a plein de spécialistes de la laïcité, il y a des livres qui sortent là-dessus, des colloques et tout, mais moi ma compréhension entre autres et ben, ça s'applique pour la France et pour le Québec. C'est que la laïcité, c'est un principe, mais dans une société, de droit et dans un État de droit libéral ou républicain, là, c'est un peu la même chose dans ce cas-ci, il n'y a pas un principe, il y a des principes. Et si un principe est mobilisé sans considération pour les autres, ben il les écrase. Et il y a d'autres principes super importants par rapport à la religion dans la modernité en Europe, entre autres. C'est la tolérance des minorités religieuses. C'est un principe qui devrait être en fait fondamental dans la modernité. C'est un principe qui a été développé pour essayer d'éviter les guerres de religion. Et ce principe de tolérance, il s'applique aux minorités, pas à la majorité. C'est aux les minorités qui doivent être tolérées dans cette logique-là. Et quand on parle de laïcité, on oublie toujours le principe de tolérance des minorités religieuses. Et je pense que c'est un grave problème. Et ça nous fait faire des raisonnements faux, en fait, qui font des comparaisons qui ne fonctionnent pas en réalité du tout, des comparaisons même des fois sous forme de mèmes, hein, de caricatures visuelles, où on laisse entendre que si aujourd'hui on laisse trop de marge de manœuvre aux musulmanes qui portent le hijab, puis là on met une photo de regardez l'Iran dans les années 70, regardez l'Iran aujourd'hui, ben vous voyez en fait en 30 ans, ben en fait toutes les femmes portent le hijab. Bon,
Ouais, qu'est-ce que voilà, qu'est-ce que vous
Il y a
répondez?
un petit flou en Iran en ce moment là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Vous avez peut-être vu ces images-là. Mais oui, mais c'est parce que l'Iran est à 99% musulman là. Ça fonctionne évidemment pas pour la France là. Et donc on a le même affaire, on a la même situation au Québec. Peut-être vous connaissez pas l'histoire du Québec, mais au Québec jusque dans les années 60, donc très tardivement, les plus grandes institutions de la société, donc principalement les hôpitaux et les écoles, étaient gérées et administrées par les congrégations religieuses catholiques. Donc, ils enseignaient plus, ils les géraient, là, ils les administraient, c'était leur propriété. Et à la fin des années 60, début des années 70, ils ont passé la main à l'État. Et donc, ça a été le développement du système public d'hôpitaux et d'écoles. Et donc, on a sorti les curés et les religieuses non seulement de l'administration, mais des services d'éducation et santé. Et donc, aujourd'hui, les personnes qui ont vécu cette époque-là, donc qui sont maintenant nos grands-parents ou nos parents âgés, disent: Ah, mais non, mais là, on ne va pas se faire la même chose avec les musulmanes qui portent les hijabs. Mais ce n'est pas du tout la même chose. 99% de la population québécoise à l'époque était catholique. Tout le monde allait à la messe. Les catholiques avaient des institutions, ils possédaient les hôpitaux, ils avaient des fortunes. Les femmes qui portent les hijabs, qui travaillent dans les garderies ou qui font la surveillance à la cour de récréation, là, elles n'ont pas de pouvoir, là, elles ont pas, c'est pas une menace, là, c'est pas sérieux. Et donc, en fait, il faudrait revenir à cette notion qu'on a complètement oubliée dans le débat, qui est la tolérance. La tolérance, c'est même pas très généreux, mais la tolérance, c'est le strict minimum, là. La tolérance envers les minorités religieuses. Et quand on regarde ça avec cette lunette-là, ben, ce qu'on voit, en fait, c'est que, évidemment, la loi sur la laïcité discrimine, en fait, femmes. Puis sur la question des libertés, évidemment, la France, ben, en fait, il y a la liberté, mais il y a l'égalité, hein, aussi. Puis finalement, il y a la fraternité aussi. Et pour ces trois grands principes, je pense qu'en France, on pourrait avoir des questionnements critiques en se disant: Ah oui, c'est bizarre, ils ont quand même ces principes-là, mais est-ce que ça fonctionne vraiment comme ça, la France? L'égalité, on s'entend que la société française n'est pas égalitaire. Même si vous dites que vous avez les mêmes droits au départ, là, mais en réalité, la société n'est pas égalitaire du tout, ça se saurait. Et pour la
Dans
liberté, ben,
l'éducation
c'est.
nationale, c'est très clair, hein. Il suffit de regarder les établissements, les dotations, les bassins de
Voilà.
recrutement, enfin bon.
Si je voulais faire de la polémique, je dirais de toute façon, si on veut une société vraiment égalitaire, des gens commenceraient par abolir l'héritage, mais en tout cas, bon, ça, c'est un autre débat. Mais parce que toutes les personnes naissent libres et égaux en droit, oui, mais il y en a qui naissent avec des héritages et d'autres qui n'en ont pas du tout, qui ont des dettes même. Et la liberté, ben oui, absolument, la liberté, elle a été mobilisée dans les dernières années très, très, très fortement. Je suis Charlie, tout ça, on peut rire de tout, on peut tout dire, quand ça fait l'affaire des puissants, mais quand ça fait pas l'affaire des puissants, ben, ils n'hésitent pas à censurer, dissoudre des maisons d'édition, attaquer un tel pour apologie au terrorisme, ben, vous savez comment ça fonctionne là, donc
Le dispositif est en place, hein, un dispositif
Oui,
en place.
donc la liberté, le fameux liberté, valeur fondamentale, liberté, pas juste liberté, mais liberté d'expression. On peut rire de tout et tout. Non, en fait, en France, on peut pas rire des gendarmes, on peut pas rire des policiers. Il y a beaucoup de personnes dont on peut pas rire en réalité. Et puis l'autre question, c'était l'influence. Oui, alors donc l'influence, elle est très importante, même dans des organisations. Hein, tout ce qui est les mobilisations contre éducation à la sexualité et minorité sexuelle et de genre dans les écoles. Les organisations comme Parents Vigilants qui ont été créées par Zemmour s'inspirent très fortement d'organisations similaires aux États-Unis qui donnent des conseils pour porter plainte, qui ont même des lettres pré-rédigées que vous pouvez signer pour porter plainte contre votre commission scolaire, la direction d'école, le ministère de l'Éducation, les autorités, le préfet, etc. Il y a des rencontres. Donc ça, il y a même au niveau organisationnel. Il y a des inspirations entre la façon dont les
Oui.
forces conservatrices et réactionnaires s'organisent et la manière dont elles s'organisent ici. Puis après ça, il y a des passages, il y a des volontés aussi d'être connus. Zemmour, Le Pen, tout ça, ils font des voyages aux États-Unis pour essayer d'être reconnus, d'avoir des alliés, d'avoir des appuis. Et puis après ça, au niveau intellectuel, bien, là, je reviens un peu dans le temps, mais. Par exemple, Pascal Bruckner, Alain Finkielkraut, là, donc ils sont vieux maintenant, mais dans les années 90, ils étaient à la tête de collections de chez Gallimard et d'autres. Et par exemple, c'est Alain Finkielkraut qui a fait traduire dans sa collection L'âme des armées, qui est un livre de Alan Bloom. Alan Bloom, c'est un philosophe politique de l'Université de Chicago. C'est le livre, en fait, qui est considéré comme la Bible anti-political correctness, donc anti-rectitude politique. C'est un livre de 400 pages de spéculations et d'anecdotes sur les féministes qui sont comme des Khmers rouges qui empêchent la lecture des dead white men, donc les Platon, Aristote, Rousseau, Hobbes, tout ça. Apparemment, ils prétendaient dans les années 80-90 qu'on ne pouvait plus les lire sur les campus américains, ce qui était totalement faux, mais c'est pas grave. Et donc, Finkielkraut traduit et sert de passeur. Et vous avez la même chose aujourd'hui. Donc oui, il y a des passeurs comme ça qui regardent ce qui se passe aux États-Unis et qui s'en inspirent. Je reviens là avec ce que j'ai dit au tout début sur le mot woke, par exemple. C'est une reprise. Donc tout l'anti-wokisme est un calque de ce qui s'est fait aux États-Unis avant.
Alors, deux autres questions, Francis. Une question intéressante. Alors, la première est une question un peu optimiste au fond, et je ne suis pas loin de la partager d'ailleurs. N'est-ce pas finalement plutôt rassurant pour les Français qu'il faille des milliards d'euros de propagande pour échouer, malgré tout et de façon récurrente, à créer une majorité réactionnaire? Parce que, alors, souvent, on voit nos difficultés, et ce que je constate, c'est que c'est vrai qu'ils mettent quand même beaucoup de moyens. C'est compliqué quand même, hein. C'est compliqué. Ça, c'est la première question. Et une question de Julien. Alors en fait, il dit, avant CNews, le FNRN ne progressait-il pas déjà? Est-ce qu'on n'a pas tendance, au fond, à mettre la progression du RN aujourd'hui en France et des partis de ce type sur le dos voilà, des médias, des milliardaires, alors qu'il y a une tendance lourde, en fait, qui est au-delà de ça?
Oui, deux bonnes questions que je vais prendre séparément là. Et je vais peut-être commencer par la première. Oui, tout à fait. Mais avant CNews, il y avait déjà. Oui, Jean-Marie Le Pen existait avant CNews, effectivement. Tout à fait. Et ça avançait. Et ça avance pas juste en France, de toute façon, aussi l'extrême droite. Et donc je ne dis pas du tout que c'est la seule explication. Moi, dans ce livre-là où je. Disons, je mets la loupe sur les polémiques médiatiques. Évidemment, c'est ça qui m'intéresse plus précisément, mais je ne suis pas en train de dire que c'est la seule explication, évidemment. Puis il y a des explications aussi qui sont liées au système électoral, aux autres partis politiques aussi, aux alliances avec les calculs stratégiques de ce qu'on appelle encore la droite, qui est quand même pas mal proche de l'extrême droite en France. Donc il y a vraiment les transformations au niveau de l'électorat. Bref, il y a évidemment beaucoup de facteurs qui influencent, mais moi, ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est cette question-là des polémiques médiatiques. Donc c'est pour ça évidemment que j'accorde une importance à ça. Et tout de même, quand même, je le mentionne là, je pense quand même que les forces de droite et d'extrême droite ont quand même maximisé, ou en tout cas plus que consolidé, elles ont vraiment développé une force de frappe encore plus grande au niveau médiatique qu'il y avait
Socle,
dans...
socle,
Oui, absolument, c'est ma compréhension. Et j'aurais tendance à dire aussi dans des termes vraiment décomplexés par rapport à ce qu'on pouvait entendre il y a 20, 30 ou 40 ans. Là, je ne dis pas qu'il n'y avait pas du racisme, qu'il n'y avait pas de xénophobie dans les années 90, par exemple, mais je pense que c'est vraiment décomplexé, beaucoup plus décomplexé aujourd'hui qu'il y a une trentaine d'années. Alors que, de l'autre côté, les forces de gauche et d'extrême gauche, si on peut appeler ça comme ça, reste relativement modéré. C'est pour ça que j'aime pas tellement la logique de polarisation, parce que la logique de polarisation laisse entendre que c'est la montée aux extrêmes des deux côtés. Mais moi, ma compréhension, c'est que l'extrême droite monte aux extrêmes, l'extrême gauche est plutôt modérée par rapport à l'extrême gauche d'il y a 20, ben, il y a 30 ou 40 ou 50 ans, en fait, à la fois dans les pratiques et dans les idées. Très, 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 très rare aujourd'hui d'avoir des politiciens vraiment anticapitalistes, là. On va nationaliser un peu des choses, on va faire des arrangements, mais le capitalisme n'est plus remis en question par personne à peu près. Et l'autre question, j'aime toutes les questions, en fait, c'est toutes des bonnes questions, mais c'est le côté optimiste, là. C'est pas rassurant là, je suis démasqué comme un sinistre pessimiste. Effectivement, je regarde souvent la face sombre de la réalité, mais oui, c'est une belle manière de parler de gaspillage de ressources, de dire avec tous ces efforts, il y a quand même encore un nombre substantiel de personnes en France qui n'achètent pas leur salade et qui ne les croient pas. Et donc ça, évidemment, il y a des explications aussi pour ça. Il y en a plusieurs. Et si je reste purement et simplement du côté des médias, ben c'est qu'en France, il s'est quand même aussi développé dans les dernières décennies un écosystème aussi de médias de gauche et d'extrême gauche indépendants, souvent nouveaux, des nouveaux médias qui profitent des médias sociaux, entre autres du web, évidemment. Et ce n'est pas la seule explication, évidemment. Mais il y a des choses, il y a des choses très bien qui se passent de ce côté-là aussi. Ça rejoint des gens, ça parle aux gens et les gens en redemandent aussi. Il y a d'autres explications, évidemment.
Alors, pour cette dernière partie d'émission, j'aimerais quand même revenir aussi sur cette question de la démocratie. Parce que, bon, alors le livre est très. Voilà, c'est un livre long, hein, La peur du peuple, Agoraphobie, Agoraphilie politique. Donc, c'est très riche et on voit que, bon, on n'a pas toujours encensé la démocratie, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, qui a pu faire peur. Hein, il suffit de faire ce travail de relecture historique pour comprendre en fait que. Voilà, et c'est peut-être pas bon signe pour nous d'ailleurs, hein, qu'on utilise ce terme avec autant de facilité en fait pour masquer, voilà, pour masquer beaucoup de choses. Alors ma question, et c'est une question sur laquelle on réfléchit beaucoup en ce moment, évidemment, j'avais chroniqué d'ailleurs sur QG la lecture de Laguenerie qui a écrit sur la l'âme noire de la démocratie, et j'étais très critique quand même du livre. Je trouvais que, alors je comprenais certains constats, mais le problème, c'est que ça me gênait parce que, je vais vous dire franchement, hein, c'est que lorsqu'il parle, par exemple, des gilets jaunes, il ironise un petit peu en disant, oui, ben, on demande le RIC, on demande tout ça, ça va pas changer grand-chose, ce sera encore un vote, c'est la question majoritaire. Donc c'est une question que là vous abordez vraiment, hein, la démocratie, est-ce qu'il faut que ce soit, voilà, la majorité qui peut au fond opprimer une minorité? Et de l'autre côté, vous dites, bon, mais on se rendra plus aux urnes, et puis vous parlez de l'abstention. Voilà, j'aimerais vous entendre un peu là-dessus, sur cette question de la démocratie, parce que c'est quand même dans les mouvements sociaux, dans nos luttes, dans nos réflexions, quelque chose d'important. Est-ce qu'il faut complètement désespérer de ça, ou pas? Comment il faut se situer par rapport à ça, quoi? C'est une question, je pense, qui est quand même très, très importante, parce qu'on voit que c'est fortement dévoyé. Moi, ma crainte, c'est de dire, oui, mais elle est dévoyée, mais est-ce qu'il faut tout jeter, quoi? Voilà, est-ce que c'est pas, voilà, est-ce qu'il nous reste quand même pas ça? Voilà, c'est un peu une question un peu
Ok,
tentaculaire avec
ben,
plusieurs choses, mais.
je vais me permettre, pour faire plaisir à mes maisons d'édition, aux maisons d'édition qui me publient, de mentionner deux, trois livres, désolé de l'autopromotion, là. Donc, il y a La peur du peuple, mais avant La peur du peuple, il y avait un autre livre qui s'appelle Démocratie, histoire politique d'un mot. Donc, je le mentionne parce que je vais commencer avec ça. Puis, je mentionne le livre si les gens veulent aller l'emprunter à la bibliothèque ou le voler quelque part, ils peuvent aller le lire. Mais donc, Démocratie, histoire politique d'un mot, c'était une recherche que j'avais menée, en fait, en prenant conscience, hein, d'autres m'avaient aidé à en prendre conscience, que ce qu'on appelle les fameux pères fondateurs, donc c'est des pères, c'est des hommes, les pères fondateurs, donc, de ce qu'on appelle les démocraties modernes, États-Unis, France, pour faire très vite, parce que c'est les plus influentes. En fait, quand on tombe dans les textes, dans leurs textes, de la période révolutionnaire, que ce soit des lettres personnelles, des discours, des manifestes, même des chansons à la limite. Premièrement, ils utilisent très peu le mot démocratie, et quand ils l'utilisent, c'est de manière péjorative. C'est le règne des pauvres, c'est le chaos, c'est la violence, c'est irrationnel. On ne peut pas laisser le peuple comme ça se gouverner. Et pour eux, la démocratie, ça ne peut être autre chose que un système, ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie directe. À l'époque, il n'y avait pas de qualificatif. Et leur modèle, c'est la tarte à la crème de l'histoire, du mythe de la démocratie, c'est Athènes. Donc, c'est la démocratie directe d'Athènes, mais ils sont contre ce modèle-là. Ils prennent plutôt comme modèle la République romaine ou même Sparte. Et donc, je me disais, ah, mais c'est curieux quand même. Et donc, en fait, ma question de recherche était, mais alors, si ce qu'on appelle nos démocraties modernes sont fondées par des gens qui sont ouvertement antidémocrates, alors, à partir de quel moment on va appeler nos régimes des démocraties? Donc, c'était ma question. Et très rapidement, je vous vends le punch finalement, donc vous n'avez pas besoin de lire le livre. C'est dans les années 30 et 40, 1830 et 1840 aux États-Unis en France, et c'est à des fins électorales, je vous passe les détails, où en fait, dans des jeux de politique, en fait, il y a des camps qui réalisent, des candidats qui réalisent qu'en fait, c'est gagnant au niveau de l'électorat de lui dire à l'électorat qu'on est des démocrates et qu'on défend la démocratie. Ça lui laisse comprendre qu'on défend l'intérêt du peuple. Mais ils vont changer, donc ils vont commencer à dire qu'ils sont pour la démocratie, que la France est une démocratie, les États-Unis c'est une démocratie. Ils vont commencer à utiliser ce terme-là, mais, et c'est le plus important, sans absolument rien changer au système. Donc en février 48, évidemment, en France, il y a le suffrage universel pour hommes, donc qui revient pour hommes adultes, mais ça avait déjà été fait. Et donc, on ne change pas de manière substantielle le système pour donner plus de peuple, plus de pouvoir au peuple, ce qui serait logique si on revient à l'étymologie du mot démocratie. Et donc ça, c'était. Et donc à travers cette recherche-là, j'ai bien vu aussi comment en fait les membres de cette élite, même s'ils se disent démocrates ou pas d'ailleurs, développent tout un discours au sujet du peuple comme une force dangereuse. Donc le peuple il est d'abord et avant tout, dès qu'on se rassemble, à la limite individuellement, chacun chez nous, on peut être raisonnable et rationnel, mais dès qu'on s'assemble, il y a un effet de foule et on devient une bête irrationnelle.
Ouais, c'est l'agoraphobie.
C'est l'agoraphobie animée par nos passions. Donc l'agoraphobie, c'est cette idée que j'ai empruntée à la psychologie, de dire on a peur du peuple à l'agora, du peuple assemblé. Et comme il est irrationnel, l'agoraphobie dit, en fait, il n'est qu'émotion. Et comme il n'est qu'émotion, il est facilement manipulable par les démagogues. Et il ne s'intéresse qu'à ses intérêts particuliers. Et donc, ça crée un effet de fragmentation plutôt que de s'intéresser au bien commun. Je passe sur les détails parce que ce que j'explique aussi, c'est que l'agoraphilie politique, donc l'amour de la démocratie directe, peut retourner tous ces arguments en disant non, en fait, c'est l'élite au pouvoir qui est plutôt pas rationnelle, qui est pas pour le bien commun, qui est démagogue, etc., etc. Et donc voilà. Donc j'ai une conception assez critique, vous aurez compris, de notre système qui se prétend être une démocratie, mais que moi j'appelle plutôt régime électoral. Il y a aussi un terme que je reprends de la philosophie politique classique, qui est en principe connu, mais qu'on n'enseigne jamais et qu'on reprend jamais, malheureusement, à part Bernard Manin, qui en avait fait un livre. Mais c'est la notion d'aristocratie élective. Donc moi, je dis, on est dans une aristocratie élective. Moi, je dis, en fait,
Ouais,
je reprends les
Castoriadis
termes.
parle d'oligarchie élective. Ouais.
Oui, il y a
Ouais.
différentes manières, puis
Ouais.
monarchie élective aussi, là, mais aristocratie élective, c'est vraiment, on retrouve ça chez Montesquieu, chez Rousseau, chez bien d'autres, Spinoza, qui disent, quand c'est un petit groupe qui dirige en étant élu, quand c'est une petite clique qui dirige en étant élu, c'est une aristocratie élective. C'est pas une démocratie. Une démocratie, il faut que le peuple dirige directement. Il faut pas qu'il élise. Donc, une fois que j'ai dit tout ça, ça fait beaucoup de matériel. Je suis désolé. Moi, je suis critique du régime parlementaire. Je suis critique du régime électoral et je veux pas vraiment y participer d'une quelconque manière. Et donc, moi, je pense, je crois, je sais d'ailleurs, pour l'avoir expérimenté, que la démocratie telle que moi je l'entends, c'est-à-dire la possibilité de participer directement, de délibérer directement des affaires communes, c'est quelque chose qui existe régulièrement, qui se pratique régulièrement, même dans les régimes plutôt autoritaires. Ça se fait dans les quartiers, ça peut être sur les lieux de travail, dans les universités, dans les mouvements sociaux, pour le dire comme ça. Et moi, si j'ai envie de m'engager politiquement ou de mener une action politique, c'est vers là que je vais quand j'ai le temps de le faire. Plutôt que d'aller vers la politique électorale. Après ça, ça ne veut pas dire que je considère que tous les partis se valent. Là, c'est pas, je ne suis pas
Oui,
de
non,
cette
c'est pas
école-là
la
non plus, là.
question.
Mais bon,
Donc on
voilà. Et
abandonne
puis.
en quelque sorte l'idée d'une prise de pouvoir, en fait.
Oui, exactement. Exactement.
Ça, en fait.
Mais il faut dire que j'ai des idéaux qui rentrent mal dans la boîte de vote, dans l'urne. Donc.
Oui,
Je,
oui.
je, et comme je disais tout à l'heure que je suis pessimiste, je n'ai pas trop d'espoir de voir mes idéaux s'accomplir de mon vivant. Mais ma compréhension aussi, c'est que les grands bouleversements sociaux, les grandes transformations sociales, ce qu'on peut appeler les révolutions, elles sont en fait le fait, elles sont pas le fait de tactiques ou de stratégies concoctées par quelques militants, militantes ou des intellectuels dans leur cuisine qui se disent on va transformer la société comme ceci ou comme cela et ça va fonctionner. C'est une conjonction de plusieurs facteurs et dynamiques de crise, généralement, qui fait que ça s'effondre. Et malheureusement, très souvent, une nouvelle élite ramasse les billes et souvent impose son nouveau pouvoir. Donc, c'est tout à fait agréable d'avoir des discussions en fin de soirée de comment on peut refonder la France, refonder le Canada, refonder les États-Unis, société idéale et tout, mais. Dans la réalité, souvent, c'est pas, faut pas avoir une bonne idée pour que la politique change, sinon ça se saurait. Hein. D'ailleurs, il y a des très mauvaises idées qui peuvent perdurer très très longtemps en politique parce
Bah
que en guillemets, ça fonctionne, c'est-à-dire que le système fonctionne, quoi.
oui. Ouais, et puis c'est des déplacements affectifs qui font qu'il arrive un moment où on n'a plus envie et donc il y a une désaffiliation. Au fond, ça n'intéresse plus personne, quoi. Le problème, c'est qu'ils parlent dans le vide, finalement.
Oui, puis après ça, il y a la question de l'abstention, que j'ai aussi traité dans le livre Nous n'irons plus aux urnes. Alors là, c'est toujours gênant parce qu'en fait, quand je faisais des entrevues comme je fais avec vous en ce moment, je le dis un peu à la blague, mais c'est plus ou moins drôle. Mais des fois, je vois dans les commentaires après, les gens disent ah, c'était très intéressant, jusqu'à ce qu'au moment où ils disent qu'il est abstentionniste, c'est vraiment un scandale, c'est décourageant, il faut absolument aller voter et tout. Bon, bref. Donc, oui, je suis abstentionniste et donc, moi, je. Mais dans le petit livre, Nous n'irons plus aux urnes, pour faire encore de l'autopromotion, désolé, je ne fais pas juste dire il ne faut pas aller voter, je présente quand même aussi pourquoi, en fait, qu'est-ce qu'on sait des gens qui ne vont pas voter? Qu'est-ce qu'on sait des motivations des gens qui ne vont pas voter? Est-ce qu'on peut déconstruire aussi les arguments de, surtout les condamnations morales de l'abstentionnisme? C'est comme une sorte de péché capital, l'abstentionnisme. C'est comme le crime ultime de manque de responsabilité citoyenne. Donc, comment se fait que c'est si fort, en fait, la stigmatisation des abstentionnistes? Et donc, ça, je parle de ça. Je déconstruis aussi l'idée que l'abstentionnisme, c'est quelque chose qui est réservé aux personnes privilégiées. Je vais montrer en fait des enquêtes auprès de populations très
Oui,
très défavorisées qui
oui.
expliquent très clairement pourquoi elles ne votent pas
Oui.
et pourquoi ça sert à rien de voter. Et finalement, je finis le petit livre en rappelant aussi des projets de candidature, disons, humoristique qui se sont présentés dans l'histoire. Il y en a eu à plusieurs reprises. Donc des gens qui sont plutôt cyniques envers le système parlementaire, mais qui, évidemment, en France, tout le monde se rappelle du cas de Coluche, là. Mais il y en a eu vraiment plusieurs cas. Et donc, je rappelle des cas comme ça pour voir comment on peut jouer aussi avec le système électoral.
Qui a été rappelé par le gendarme de la gauche, quand même, en France, enfin, la gauche. En tout cas, un dénommé Jacques Attali. Alors, pour conclure, Francis, parce que voilà, on a bien discuté. Alors, une question donc du chat, Leïla. Est-ce que le capitalisme, jusqu'ici accepté malgré sa violence, en échange d'une promesse de prospérité collective, est en train de s'effondrer en utilisant la guerre idéologique comme ultime arme de survie? Ou la bataille culturelle, disons, ou la guerre culturelle comme ultime arme de sortie. Voilà une synthèse rapide hein, pour pas, voilà, pour bien conclure. Et puis, ma dernière question, quand même, c'est la question du jour. Hein, comment peut-on gagner cette guerre culturelle? Et est-ce que la question a un sens, Francis? Gagner la guerre culturelle?
Alors, le capitalisme, j'ai beaucoup de difficultés à prédire l'avenir. Et généralement, quand je fais des prédictions, je me trompe. Donc, le capitalisme me semble quand même pas mal solide, en fait, même s'il y a des crises, mais il se nourrit des crises. C'est un peu une banalité de dire ça. Il profite tout à fait des guerres culturelles dont je viens de parler. J'ai mentionné tout à l'heure en passant là, que justement, il nous détourne l'attention d'enjeux matériels, de nos intérêts matériels, des enjeux d'inégalité sociale, des enjeux économiques pour nous livrer en pâture, là, nous livrer un os, là, une énième polémique au sujet d'une femme qui porte le hijab ou de on n'a plus le droit de dire Joyeux Noël ou d'un élève trans dans une école, là. Et donc, pendant ce temps-là, ça occupe nos esprits, ça occupe l'espace médiatique, l'espace polémique. Et pendant ce temps-là, ben, le capitalisme, évidemment, il est mort de rire puisque lui, il continue à faire du business et ça fait partie de la business. Donc, ces guerres idéologiques et ces guerres culturelles l'avantagent tout à fait. Par ailleurs, le capitalisme, il y a d'autres choses qu'on peut dire. Évidemment, il ne survit pas que grâce à ces polémiques, mais elle participe évidemment de sa défense d'une certaine manière en nous faisant détourner le regard. Mais évidemment, le capitalisme mène sa bataille idéologique aussi ben, simplement déjà avec les publicités. Hein. Donc la publicité, c'est quelque chose qui nous pourrit l'esprit, la vue et les oreilles tout le temps. En fait, on est comme complètement envahi par les publicités. Et je vous apprends rien, évidemment, je ne suis pas spécialiste de ça, là, mais en disant que le capitalisme aussi se nourrit énormément des nouveaux médias sociaux avec dont on n'a pas parlé. Là, on aurait pu avoir toute une discussion sur l'influence des nouveaux médias sociaux, parce que les polémistes dont je parle, ils sont aussi sur les médias sociaux, évidemment, et ils
Oui, ils sont
entretiennent
relayés
bien.
sous forme de shorts, etc.,
Oui,
quoi.
et eux-mêmes font le
Oui,
travail
bien sûr.
d'animer leur propre page de médias sociaux et tout. Là, ils sont pas naïfs, ils ont leur propre stratégie de ce côté-là, ils sont très efficaces. Est-ce qu'on peut gagner cette guerre culturelle ou non? Ben, on pourrait faire d'autres analogies, on peut dire ben, c'est comme la guerre de 100 ans ou c'est comme un combat de guérilla, mais non, dans la mesure où, c'est-à-dire non. Je pense qu'on peut gagner des batailles, on peut en perdre aussi. Il peut avoir des. C'est pour ça que l'analogie avec la guerre aussi, elle peut être intéressante. Il y a des fronts qui stagnent, il y a des attaques surprises, bref, il y a de la diversion. C'est pour ça que la métaphore de la guerre, elle fonctionne un peu quand même sur ces questions-là. Et comment je dirais, et dans la mesure où on vit dans des sociétés pluralistes, divisées, avec des intérêts contradictoires dans nos sociétés, il va nécessairement aussi y avoir non seulement une lutte de classe, mais des combats culturels. Ça va avec. Il faudrait vraiment avoir une société homogène pour qu'il n'y ait plus de polémiques culturelles. Il y a mon chat qui hurle pour rentrer.
Ça veut dire qu'il est temps. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Francis, pour tous ces éclairages. Je rappelle donc quelques livres, L'art de la guerre culturelle, aux éditions textuelles. C'est très intéressant à plus d'un titre. Il y a tout ce panorama, surtout. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment intéressant et ça montre une tendance lourde, une cohérence et une continuité. Là, je trouve que les textes sont bien choisis pour ça. C'est-à-dire qu'on voit bien les années 90, 2000. Ça nous sort un petit peu de l'actualisme. Tout d'un coup, il y aurait un phénomène émergent qui apparaît, le woke. Tout d'un coup, ça y est, c'est la grande révolution, la grande décadence. En fait, non, non, on voit qu'il y a vraiment cette trajectoire longue. Donc ça, c'est évidemment très, 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 très intéressant. Le caractère d'ironie et la pointe aussi, qui est la position que vous défendez, hein. Il y avait encore une question d'ailleurs de Farah qui était très actif. Il dit, mais en tant que, enfin, même quand le vote progressif peut empêcher le pire. Hein, donc voilà, il faut l'entendre. Il y a cette question, bah oui, je peux quand même voter. Bon, je crois que ça, on n'est pas des. Enfin, je pense que c'est pas votre idée du tout d'être prescripteur de conscience ou de dire qu'il faut. Non, 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 il faut pas. Mais il faut comprendre aussi évidemment les logiques. Et un texte, alors là vraiment très fourni, La peur du peuple, agoraphobie et agoraphilie politique, qui est très très riche. Et on voit la complexité. J'ai beaucoup aimé, hein, le passage sur la démagogie des élites. Vous démontrez en fait que, ben oui, la démagogie, non, c'est pas que le peuple, c'est aussi les élites, et le système représentatif est fortement évidemment démagogique, et peut-être c'est même le système, peut-être le plus démagogique qui soit, puisque ben, à la fin, il faut être élu.
C'est les fameuses promesses électorales, c'est les fameuses promesses
Exactement,
électorales.
exactement. Merci en tout cas, Francis, d'avoir accepté notre invitation. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je rappelle que QG est un média indépendant. On a parlé aussi de cette question-là. L'indépendance a un prix, tout simplement, c'est l'abonnement. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir nos contenus. Là, on était ce soir en libre accès, mais il y a d'autres contenus, des textes, hein, c'est du travail d'analyse, c'est du temps. Voilà, n'hésitez pas à nous soutenir et d'autres médias, évidemment, qui vous paraissent indépendants aussi. Merci encore Francis, bonsoir à
C'est moi
toutes
qui vous remercie, un très grand merci.
et à tous. Merci.